Madame Patron tire argument des crises de l'été 2011, l'adoption d'Haïti, pour démontrer que son mari n'a pas agressé Jessica. Elle a été violée et elle ne veut pas se séparer de nous. Elle a été violée et elle veut qu'on l'adopte. Je ne pardonne pas à l'éducatrice qui a dit au procès que les filles étaient patronisées, qu'elles ne pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient. Bon sang, elles n'étaient tout de même pas attachées. Jessica, elle, a tout perdu. Sa sœur, sa famille d'accueil, son innocence, sa joie de vivre, son anonymat, sa tranquillité. Elle a choisi de briser le silence, non pas à la mort de sa sœur, mais à la suite d'une crise familiale qui lui a fait comprendre à quel point elle avait été le jouet de Monsieur Patron. Pendant toute son adolescence, elle a supporté les attouchements de son père d'accueil parce qu'elle espérait, en échange, l'amour d'une famille, une vie stable, une place quelque part. Son corps contre un peu d'affection. La souillure contre la chance de vivre dans une maison, de compter pour quelqu'un. La patte vicieuse d'un grand-père pour avoir le droit d'assister aux anniversaires de ses petites filles. Pour être aimé, il fallait en passer par là. Après l'enterrement de Laetitia, lorsque son oncle lui révèle les secrets de famille, la violence de son père, les causes de la dépression de sa mère, Jessica n'a plus qu'un avenir, les patrons. Or, ils ne veulent pas l'adopter. Ils ne veulent pas d'elle. Elle, qui a tout donné pour être acceptée d'eux. Les vacances à Tahiti, elle les vit comme un abandon. À la place, elle doit se trouver du travail et un appartement, c'est-à-dire partir. Elle perd ce à quoi elle tenait le plus. Une famille, la seule chose pour laquelle elle était capable de subir en silence. Le deal viol contre affection vient de prendre fin. Chapitre 47. Elle m'a dit, arrête. Après avoir quitté le parking du casino de Pornic, la 106 emprunte le quai Leray en direction du pont. La voiture sort de la ville et s'enfonce dans la nuit par des petites routes de campagne. Laetitia a toujours rivé à son portable. Le Gaspo à minuit. Il faut imaginer le hameau désert, les bois humides, la silhouette des arbres sur le ciel noir, le terrain encombré de carcasses de voitures, craquelé de flaques gelées, cerné par un bâtiment, un hangar, deux caravanes et une haie d'arbres. L'air glacial vous pique le nez quand vous ouvrez la portière. Des masses sombres se dressent tout autour de vous. Le bocage est figé dans la nuit glaciale. L'échange de textos entre Laetitia et William s'interrompt. Il est minuit passé de 13 minutes. Le Rottweiler est attaché à sa chaîne. Meillon et Laetitia pénètrent dans la maison du cousin, où il a le droit d'habiter en son absence. Meillon met de la musique, propose à Laetitia de la vodka et de la cocaïne, demande une relation sexuelle qu'elle n'a jamais envisagée. Il insiste, finit par obtenir une fellation, peut-être sous la contrainte. À un moment, Laetitia se dégage. Meillon raconte la scène au procès.
Elle m'a dit « arrête ». Moi ça m'a bloqué, ça m'a contrarié. Une sorte de frustration.
Fou de rage, il la saisit par le cou et lui hurle en pleine face. « T'es qu'une salope comme les autres !» Avant de la projeter contre le mur où elle se cogne la tête. Elle s'effondre en pleurs.
Je me suis confondue en mille excuses, je lui ai dit. « Je sais pas ce qui m'a pris, tu veux de l'argent ?» Elle a dit « Ramène-moi chez moi !»
Le président demande si Laetitia a pu vivre la scène du casse-pou comme un viol.
« Effectivement, » répond Meillon.
À minuit 35, la conversation avec William reprend. « Je t'appelle tout à l'heure, j'ai un truc grave à te dire. » William s'inquiète, demande si elle a trop bu, croit deviner qu'elle sort avec deux garçons à la fois. Minuit 47, Laetitia. Non, plus grave. Debout dans son box, Meillon prétend qu'ils ont tranquillement bavardé dans la voiture sur le chemin du retour. Il lui aurait demandé la raison de son refus, elle aurait prétexté qu'elle avait un problème de ce côté-là, il lui aurait conseillé d'en parler à quelqu'un. Faut que tu craches le morceau. Quittant le banc des avocats, Cécile de Oliveira se met en colère.
Au Caspo, il y a une carabine, des munitions, un Rottweiler. Laetitia vous a fait une fellation, alors qu'elle n'en a pas l'habitude avec ses petits amis. Ensuite, vous la traitez de salope et vous essayez de l'étrangler. Et au retour, elle vous ferait des confidences dans la voiture. Je pense, monsieur Meillon, qu'à ce moment, Laetitia est dans un état de terreur extrême. Cette jeune fille, elle a peur de mourir. Elle ne pense qu'à une chose, va-t-elle survivre ?